Bonjour et bienvenue encore une fois au Master Course sur la nutrition dans le diabète, les notions de base sur l'alimentation santé. Dans le module précédent, nous avons vu ensemble les macronutriments. Dans ce module 4, nous allons aborder les vitamines, les minéraux et l'eau. Donc, les vitamines et les minéraux constituent les micronutriments. Des vitamines. On catégorise les vitamines en deux groupes, les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Donc, soit solubles dans les matières grasses, dans les lipides, ou bien solubles dans l'eau. Les vitamines liposolubles sont absorbées directement dans la lymphe, transportées dans le sang via des lipoprotéines. Elles sont stockées dans le foie ou avec d'autres lipides dans les tissus adipeux. Il y a des petites quantités de ces vitamines qui sont excrétées dans la bile. Et parce que ce sont des vitamines qui sont stockées, il est possible d'accumuler des concentrations toxiques. Donc on peut avoir une toxicité, par exemple, à la vitamine A, qui est une des vitamines liposolubles. Il n'est pas nécessaire de prendre ces vitamines de manière quotidienne non plus, puisqu'elles sont stockées sur plusieurs mois. Par exemple, si on consomme un repas riche en vitamine A, mettons du foie d'animal, on a assez de stock de vitamine A pour nous servir pendant un certain temps. Donc, les symptômes de déficit sont lentement développés pour la même raison, à cause du stockage. Et ces vitamines sont habituellement assez stables à la cuisson puisqu'elles ne sont pas solubles dans l'eau, elles ne sont pas perdues dans l'eau de cuisson. En revanche, les vitamines hydrosolubles sont absorbées directement dans la circulation sanguine à travers la veine porte. Elles voyagent librement dans le sang, ne sont pas stockées dans les tissus. Les excès sont excrétés dans les urines. Donc, la toxicité est improbable pour les vitamines hydrosolubles. Mais, en revanche, il est nécessaire d'en consommer de manière quotidienne dans l'alimentation. Et les symptômes de déficience peuvent se développer assez rapidement. Elles peuvent être aussi détruites par une cuisson excessive, ces vitamines-là. Il y en a certaines sont encore plus sensibles que d'autres. Mettons que la vitamine C, par exemple, est l'une des vitamines les plus fragiles. Il est important de savoir les conserver, puisqu'elles se dissolvent assez facilement dans l'eau de cuisson. Si on consomme l'eau de cuisson avec l'aliment, par exemple dans une sauce, ben on récupère ainsi certaines vitamines. Vous avez dans la matière que je laisse pour le cours des fiches techniques pour chacune des vitamines et pour les minéraux. C'est pour cette raison que je ne vais pas aller dans le détail sur chacune de ces diapositives qui peuvent être assez longues à déchiffrer et à lire. Toutefois, quand vous l'aurez en PDF de manière parallèle, vous pourrez les regarder à loisir. Donc, je vais passer rapidement sur les vitamines et minéraux, simplement pour mettre en évidence le rôle important de ces vitamines, de chacune de ces vitamines. Et aussi insister sur les sources. Donc, je passerai à travers les diapos en parlant du rôle et de la source de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux. Et vous aurez le loisir, comme j'ai dit plus tard, de les regarder à tête reposée. Donc, la vitamine A a un rôle important pour la croissance et le développement cellulaire, l'immunité, le bon état de la peau et des muqueuses, la reproduction. Et elle participe au mécanisme de la vision. Donc, d'où son importance pour la vision et son importance pour l'immunité, particulièrement chez les enfants. Les sources de cette vitamine sont souvent les aliments d'origine animale, le foie, le rognon, les œufs, le lait enrichi, si on y a rajouté de la vitamine A, la crème, le beurre, l'huile de poisson et certains aliments végétariens, comme les céréales auxquelles on aurait ajouté de la vitamine A, donc ce n'est pas toutes les céréales, certains fruits et légumes, mais aussi l'huile de palme rouge. Donc l'huile de palme rouge, qui est une huile traditionnelle dans certains pays d'Afrique, elle est une bonne source de vitamine A. Cette vitamine est sensible à la lumière, à la chaleur et aux oxydants. Vous aurez en bas de chaque diapo, donc dans chaque fiche technique, les recommandations pour la quantité de chacune des vitamines et de chacun des minéraux qui sont recommandés pour les hommes, les femmes enceintes, etc. Donc, vous pouvez regarder de manière plus détaillée. La vitamine D, connue aussi sous le nom de cholécalciférol, elle agit comme une hormone, cette vitamine. Elle maintient des niveaux sériques du calcium et du phosphore, donc très importante pour l'intégrité osseuse, donc particulièrement importante pendant la croissance. Elle joue aussi un rôle dans le cerveau, le cœur, le pancréas, la peau, les organes reproducteurs, et elle stimule la différenciation cellulaire. Les sources, c'est une vitamine qu'on peut synthétiser avec l'aide de la lumière du soleil. Donc, ce n'est pas nécessairement un nutriment essentiel. Toutefois, dans certaines situations, on n'est pas exposé au soleil. Dans certains pays nordiques, il n'y a pas assez de soleil. Dans d'autres pays, même s'ils sont équatoriaux, il y a certains groupes de la population, parfois il y a des femmes qui sont couvertes, par exemple, qui n'ont pas accès à la lumière du soleil pour synthétiser la vitamine D. Donc, il est important de reconnaître quand même les sources de cette vitamine, ce qui existe dans les produits animaux, le foie, le beurre, la crème, les œufs, l'huile de foie de morue, le lait s'il est enrichi. Donc, il faut voir, regarder sur le lait, voir si ça dit fortified ou enrichi de vitamine D. Habituellement, le lait en poudre, par exemple, est enrichi de vitamine A et D. Et il y a certains pays, comme au Canada, où l'enrichissement avec les vitamines A et D du lait est obligatoire. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas dans la plupart des autres pays. Cette vitamine est sensible à la lumière, à la chaleur et aux oxydants aussi. L'autre vitamine liposoluble, donc on est dans les vitamines liposolubles encore, comme vous vous souvenez, ce sont les vitamines A, D, E et K. Donc la vitamine A, c'est un antioxydant biologique. Elle protège les membranes des cellules, préserve la vitamine A et les acides gras. Elle a un rôle dans l'immunité et peut protéger contre les maladies cardiaques et essentielle pour le développement nerveux normal. Les sources sont les produits à base d'huile végétale, l'huile de cuisson, la margarine, les vinaigrettes, les fruits et légumes et les germes de blé. Et il est intéressant d'ajouter que la vitamine E est souvent utilisée en industrie alimentaire comme antioxydant. Donc on va la retrouver rajoutée à certaines huiles, par exemple, pour servir comme antioxydant. La vitamine K, dont le nom provient, le sigle provient de coagulation, écrit en allemand à l'origine. Ce sont les bactéries du système digestif qui synthétisent la vitamine K. Elle est nécessaire pour la synthèse de quatre protéines impliquées dans la coagulation du sang et une protéine clé nécessaire à la formation des os. Les sources sont le foie, le lait, les légumes verts foncés, comme les épinards par exemple, ou les autres légumes verts foncés. Elle est donc aussi synthétisée par la flore intestinale. D'autres sources sont la laitue, le brocoli, le chou-fleur et d'autres membres de la famille des choux. Aussi les huiles de canola et de soja et les céréales qui sont enrichies. Nous passons maintenant aux vitamines qui sont hydrosolubles. Donc la première, qui est la vitamine B1 ou thiamine, qui sert de coenzyme à l'enzyme thiamine pyrophosphate, TPP, qui a un rôle majeur dans la dégradation des glucides, et donc elle participe au bon fonctionnement du système nerveux et musculaire. Les sources de cette vitamine sont la levure, certaines sortes de viande comme le porc maigre, la germe de blé, et aussi le foie, les viandes d'organes, le jaune d'œuf, le poisson, les haricots secs et les pois, les gras entiers. Elle est faible dans les laits et produits laitiers, les fruits et les légumes. Vitamine B2 ou riboflavine. Elle sert de coenzyme dans certaines réactions métaboliques et dans la production d'énergie. Elle est également impliquée dans l'activation de la vitamine B6 et la conversion de l'acide folique en ses coenzymes, donc essentielle à la croissance, impliquée dans la synthèse des corticostéroïdes, formation des globules rouges, dans la gluconéogenèse, dans l'activité de régulation de l'enzyme thyroïdienne, etc. Et les sources. Les sources importantes sont le lait, les fromages, les viandes, les œufs et les légumes à feuilles vertes. Certains pays enrichissent le pain avec cette vitamine, avec un mélange de vitamines, dont la vitamine B2, mais aussi la vitamine B1, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. La niacine. Elle a un rôle important comme précurseur du NAD et du NADP et fournit de l'énergie dans toutes les réactions métaboliques, donc pour la croissance. Elle est synthétisée par la flore intestinale à partir du tryptophane qui est un acide aminé. Les sources riches sont les viandes maigres, le poisson, la volaille, le beurre d'arachide, les abats, les levures, etc. Les mauvaises sources sont les fruits et les légumes. Et l'acide aminé qui est le précurseur de la niacine est présent dans la plupart des protéines. Vitamine B9 ou folate, nécessaire au métabolisme des acides aminés, nécessaire à la formation de l'ADN et impliquée aussi dans le métabolisme de l'homocystéine. Cette vitamine, la vitamine B9, a des conséquences importantes, sa carence a des conséquences importantes pour la femme enceinte, des anomalies congénitales, par exemple la spina bifida et l'anencéphalie, qui sont des conséquences de la carence en vitamine B9 durant la grossesse et durant le début de la grossesse. Donc, d'où l'importance de l'avoir en quantité suffisante pour les femmes en âge de procréation, même si on ne sait pas qu'elles sont déjà enceintes, puisque avant de découvrir la grossesse, le mal serait déjà fait s'il y avait carence en folate. Les sources, les meilleures sont le foie, les haricots rouges, les haricots blancs, les légumes à feuilles vertes, épinards, nouilles, etc. Certains pays rajoutent maintenant aussi la folate ou l'acide folique dans les céréales. Donc souvent, les pays qui enrichissent leurs céréales vont faire un mélange de thiamine, niacine, riboflavine et folate, mais aussi le minéral, le fer. La vitamine B12 ou cobalamine, elle est impliquée dans plusieurs réactions enzymatiques, impliquée dans la formation des globules rouges. C'est pour ça que sa déficience peut causer une anémie qu'on appelle anémie pernicieuse, qui n'est pas causée par un manque de fer. Donc, c'est une vitamine importante pour cela. Elle est aussi impliquée dans la synthèse des acides aminés, préserve les cellules nerveuses et les cellules de la peau. Elle a besoin de la folate pour la synthèse des intermédiaires de la purine et pyrimidine. Elle est une coenzyme pour réduire l'ARN en ADN. Et elle est impliquée dans la synthèse des protéines, acides gras, métabolisme des glucides. Les sources sont foire, oignons, viande rouge, le lait, le poisson, le fromage, etc. Vous remarquerez que toutes les sources sont animales pour cette vitamine-là. Donc, un des groupes à risque, ce serait ce qu'on appelle les végétaliens, ceux qui ne consomment aucun produit animalier. Et les personnes d'un certain âge, les aînés, à cause de leur difficulté à absorber la vitamine B12. Vitamine B6 ou pyridoxine, elle est essentielle au métabolisme des acides aminés. Elle aide à la conversion de tryptophane vers la niacine et est nécessaire pour la synthèse de l'hémoglobine et les neurotransmetteurs. Les sources sont les aliments qui sont riches en protéines habituellement, donc la viande, le poisson, les volailles, les pommes de terre, les légumes à feuilles vertes, les légumes en général et le beurre de cacahuète ou d'arachide. La vitamine C, qui est une vitamine très célèbre, Elle a de multiples fonctions au niveau tissulaire ou cellulaire, le métabolisme du collagène, dans le métabolisme du fer. Elle stimule les défenses de l'organisme contre les infections et est un antioxydant biologique. Donc, on l'utilise aussi en industrie alimentaire comme antioxydant, la vitamine C. C'est une vitamine donc hydrosoluble, comme les dernières que je viens de mentionner, dont la consommation doit être de manière quotidienne. Et elle est présente dans les fruits et légumes, surtout dans les agrumes, mais aussi dans les autres légumes comme les poivrons, les choux. Elle est aussi présente dans les abats parce qu'elle se retrouve dans le sang. Donc les abats ont quand même un peu de sang et donc on y trouve un peu de vitamine C. Elle est très sensible à la température et peut être perdue dans l'eau. C'est une des vitamines les plus sensibles comme je l'ai déjà mentionné. Donc ceci conclut la première partie qui parle donc des vitamines avec un survol vraiment très rapide et je vous invite, comme je vous ai dit, de consulter les fiches techniques qui vont donc détailler le rôle de ces vitamines-là. Les minéraux, donc, on les catégorise ainsi, soit les principaux macro-minéraux ou les traces ou micro-minéraux. Les principaux minéraux, par exemple le calcium est un minéral principal, alors que le fer est un micro-minéral à cause de la quantité qui est requise de ces minéraux-là. Donc un minéral pardon, principal constitue plus que 0,01% du poids corporel. Il est trouvé dans le corps humain en quantités qui sont supérieures à 5 grammes, comme l'exemple du calcium, c'est sûr que c'est à beaucoup plus que 5 grammes. Les fonctions générales, les minéraux sont des composants structurels des organes et des tissus du corps. Ils sont les constituants des fluides corporels et des électrolytes dans les tissus. Ils donnent de la rigidité au squelette. Ils sont aussi des catalyseurs dans les systèmes enzymatiques et hormonaux. Et ils contrôlent le bilan hydrique. Et le contrôle l'équilibre acido-basique dans le corps humain. Les minéraux, comme pour les vitamines, donc vous avez ces fiches techniques-là qui sont postées ou affichées avec le cours. Je vais donc passer assez rapidement sur chacun de ces minéraux-là. Le calcium, son rôle, c'est d'abord, la majorité est dans les os et les dents. Mais aussi un 1% très important qui est dans le sang et les tissus mous, pardon, tissus mous. C'est important pour la transmission nerveuse, la contraction des muscles et le maintien de la pression sanguine. Le calcium qui est dans les os et les dents a une importance évidente qui est celle de garder la rigidité de ces organes-là. Les sources de calcium sont les produits laitiers, oui, mais aussi les arêtes de poissons comme les sardines, les autres petits poissons, les crevettes séchées, par exemple. Tout ça, ce sont des sources de calcium. Je dis cela parce que ce n'est pas tout le monde qui consomme les produits laitiers, comme on a pu le voir quand on parlait des macronutriments. Que certaines personnes étaient intolérantes au lactose et donc qui allaient, ces personnes-là allaient éviter les produits laitiers qui sont une source importante de calcium. Il y a des cultures, des sociétés entières comme dans certains pays d'Asie et d'Afrique qui ne consomment pas du tout de produits laitiers. Donc, il est important de reconnaître les sources autres que les produits laitiers de calcium. Donc, comme j'ai dit, ce sont surtout les petits poissons, mais aussi les huîtres et des aliments végétaux comme le chou, le brocoli, le navet, les légumineuses, les fruits secs et aussi certaines graines comme les amandes, par exemple. Phosphore. Le phosphore se retrouve en grande partie dans les os et les dents. Il est aussi impliqué dans le métabolisme énergétique ATP, donc le P c'est pour phosphore. Il est impliqué dans nombreuses enzymes et Dans les phospholipides, donc dans les membranes cellulaires, il y a du phosphore, comme le nom l'indique. Aussi dans la minéralisation du squelette, la santé des dents, l'équilibre acido-basique, la croissance et la synthèse de certaines protéines. Les sources du phosphore sont le lait, les produits laitiers, les poissons, les viandes, les abats, les légumes secs, les céréales complètes et certains grains oléagineux qui vont donc nous donner des huiles. Maintenant, le magnésium. Important pour la minéralisation des os et des dents, la contraction musculaire et la conduction nerveuse dépendent aussi du magnésium qui est un antagoniste du calcium. Donc, le calcium stimule, le magnésium, lui, relaxe. Donc, ces deux minéraux-là travaillent ensemble à ce niveau-là. Il est actif dans plus que 300 enzymes et est nécessaire pour la libération et l'utilisation d'énergie à partir de nutriments. Il est aussi impliqué dans la synthèse des protéines et on pense que sa déficience est liée à l'intolérance à l'insuline. Pourquoi est-ce qu'il y a possibilité de carence en magnésium? Parce que les sources peut-être ne sont pas aussi omniprésentes dans l'alimentation. Les sources sont les noix, mais aussi les légumineuses. Donc, elles pourraient être une bonne source si on en consommait assez. Les céréales, le chocolat aussi, la mélasse, le maïs, le petit pois, les carottes et fruits de mer. Le sodium. Sodium, un minéral important dans le transfert de l'influx nerveux, c'est l'électrolyte majeur du sang. Maintient le volume des cellules extérieures, il est impliqué dans l'entretien de l'équilibre du pH et essentiel pour la contraction musculaire. On n'a pas vraiment un problème de carence en sodium. On a plutôt tendance à consommer trop de sodium. On peut arriver à une déficience si on souffre de diarrhée, par exemple, ou de vomissements à répétition. Donc là, on peut tomber en hyponatrémie, on peut avoir des crampes musculaires, une perte d'appétit, etc. Toutefois, habituellement, on consomme plus que la recommandation de sodium, puisqu'il se retrouve, ce minéral, dans le sel de table, donc très répandu dans l'alimentation, surtout dans les aliments transformés, surtout dans les cubes, par exemple, qu'on utilise pour donner de la saveur aux aliments. Ces cubes-là sont vraiment hyper concentrés en sel, et donc on a le problème de trop de sodium dans l'alimentation plutôt que pas assez. Donc, c'est un minéral auquel il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'excès de sodium peut causer l'hypertension aiguë, les œdèmes. Il peut aussi augmenter l'excrétion du calcium, qui est important donc pour la santé osseuse. Il est aussi associé au cancer de l'estomac et peut aggraver les problèmes rénaux. Le potassium. Son rôle, c'est de maintenir l'équilibre en électrolytes, ou du moins, il contribue à ce maintien de l'équilibre en électrolytes, important dans la transmission nerveuse, dans la contraction musculaire, dans le maintien du rythme cardiaque. S'il y a moins de potassium dans l'alimentation, il y a une augmentation de la pression artérielle. Donc, dans ce cas-ci, le potassium fonctionne de manière contradictoire, au contraire, si vous voulez, au fonctionnement du sodium. La déshydratation peut entraîner une perte de potassium des cellules intérieures, et donc ça pourrait être très grave. Les sources de potassium sont les fruits et légumes frais, les légumes secs, le chocolat, les viandes, le poisson. Et maintenant, on passe au chlore. C'est un ion négatif principal du corps. Il se retrouve en dehors des cellules accompagnant le sodium et à l'intérieur des cellules accompagnant le potassium. Ses principales fonctions sont l'entretien des équilibres d'électrolytes et de pH et une partie de l'acide chlorhydrique contient du chlore. La principale source est le sel puisque le sel c'est NaCl, donc le sodium et le chlore. Le soufre, le corps ne l'utilise pas seul. Il est utilisé dans le cadre d'autres composés essentiels comme les protéines. Mais il y a plusieurs protéines qui sont structurales ou structurelles qui contiennent du soufre, comme les ongles, les cheveux. C'est pour ça que si on brûle un cheveu, on sent cette odeur de soufre. C'est ce minéral-là qui rend les protéines plus rigides. Il n'y a pas vraiment de déficience connue, ni d'apport recommandé pour le soufre. Iode. Son rôle, c'est dans la synthèse de l'hormone thyroïdienne, et son rôle est important dans le développement, la croissance, surtout cognitif, le développement cognitif. Donc, un manque d'iode, ce qui peut arriver dans des situations où l'alimentation est très faible en iode et où le sel iodé n'est pas disponible. Donc là, on peut avoir des troubles mentaux comme le crétinisme, qui est la forme sévère, mais on peut avoir un groupe entier de personnes vivant dans une situation où on a un apport insuffisant en iode, où on a un développement cognitif inadéquat. On a aussi des problèmes de goitre, ce problème est répandu dans le monde, une lenteur et un gain de poids à cause de la déficience en iode. Et les sources principales sont les produits de la mer. C'est pour ça que dans certaines régions où le sol est pauvre en iode et où on est loin de la mer pour consommer les produits de la mer, on peut avoir des carences assez importantes. Aussi dans certains produits animaux, mais aussi surtout de plus en plus à travers le sel quand il est iodé, auquel on a ajouté l'iode. Le fer, donc un rôle très important dans la synthèse de l'hémoglobine, dans la synthèse des cytochromes, et aussi le fer est nécessaire à la synthèse mitochondriale de l'hème au niveau de l'érythroblaste. Quelles sont les sources? Il y a deux sortes de fer. On parle de fer héminique ou hémique et de fer non héminique ou non hémique, c'est-à-dire un fer qui provient des viandes, abats, œufs et poissons, et celui qui est non héminique, qui vient des fruits, légumes, légumes secs, fruits secs et oléagineux. Le fer non héminique est plus difficile à absorber. Toutefois, s'il est consommé avec une source de fer non héminique, mettons les lentilles, sont consommées avec une petite quantité de source héminique, comme la viande, l'absorption de la forme végétale est améliorée dans ce cas-là. Le zinc, il est impliqué avec plusieurs enzymes, au moins une centaine. Il intègre le matériel génétique de la cellule, aide à synthétiser l'hème dans l'hémoglobine, aide le pancréas avec ses fonctions digestives, aide à métaboliser les glucides, les protéines et les lipides. Il libère la vitamine A du stockage dans le foie, élimine les radicaux libres, dommageables, etc. Et il joue un rôle important dans l'immunité, l'apprentissage, la guérison des plaies, la perception du goût, la production de sperme, le développement fœtal, la croissance et le développement chez les enfants et la vision nocturne. Les sources, pardon, sont les aliments d'origine animale, quelques légumes et grains entiers, mais aussi certains aliments de la mer aussi. Quels sont maintenant les micronutriments qui sont critiques dans le contexte africain? La vitamine A. Surtout chez les enfants, il y a des problèmes de cécité et d'immunité qui sont compromises. L'immunité est compromise à cause de la carence en vitamine A. En fait, la vitamine A et sa carence, la carence en vitamine A est la première cause de cécité prévisible dans le monde. Quelque chose qu'on pourrait prévenir facilement en consommant des aliments riches en vitamine A, mais aussi en utilisant les suppléments de vitamine A qui sont aussi répandus, qu'on utilise souvent comme supplément pour les enfants avec les campagnes de vaccination de plus en plus. L'autre problème, c'est le folate chez les femmes en âge de procréation à cause des problèmes développementaux des fœtus qui sont causés par la carence en cette vitamine. La vitamine B12 qui peut causer l'anémie pernicieuse, donc une anémie qui n'est pas associée à un manque de fer dans l'alimentation, mais plutôt à un manque de vitamine B12. Le fer, qui est la carence, la déficience la plus répandue dans le monde et aussi la plus répandue en Afrique et qui cause aussi l'anémie chez les femmes et les enfants. La fatigue, la difficulté d'apprentissage, des retards d'apprentissage chez les enfants surtout qui vont à l'école. Donc un problème habituellement de santé publique. Et ceci est associé à la fois au manque de fer dans l'alimentation, mais aussi aux pertes de fer, que ce soit à cause des infections parasitaires, par exemple, ou autres raisons. L'iode, donc des problèmes de goitre, de retard dans le développement mental qui sont causés par cette déficience en ce minéral, et la carence en zinc aussi. Donc une carence en zinc qui peut affecter l'immunité, la croissance et la maturation, et surtout la maturation sexuelle. Comme on peut observer, pour avoir toutes ces vitamines et minéraux, ce qu'il nous faut, c'est une alimentation variée qui soit faite d'aliments de bonne qualité. C'est pour ça que quand vous regardez les sources de ces vitamines et minéraux-là, vous allez voir qu'elles sont toutes différentes, donc d'où l'intérêt d'avoir une alimentation diversifiée afin de répondre à ces besoins-là. Enfin, pour terminer cette section, ce module, je vais parler de l'eau comme nutriment important à cause de son rôle essentiel dans le corps pour transporter les nutriments, comme pour le nettoyage, comme solvant pour les minéraux, comme participant actif à plusieurs réactions chimiques, lubrifiant pour les articulations, et j'en passe. Donc, très important de pouvoir s'hydrater et de savoir que l'eau, on est formé d'une grande partie d'eau, aux alentours de 60% de notre corps. On en perd dans les régions chaudes, dans la transpiration, on en perd toujours dans l'urine, dans la respiration, et l'apport, c'est à travers les boissons, l'alimentation et le métabolisme. Il est important d'avoir une source d'eau potable, propre, et donc ceci est malheureusement un défi pour plusieurs encore dans le monde, mais il est primordial de s'assurer de l'assainissement de l'eau afin que celle-ci soit disponible de manière assurée pour tout le monde en quantité suffisante. Les signes de la déshydratation, si on a une perte légère, une légère déshydratation, on va avoir une petite perte du poids corporel, on va sentir la soif, on va avoir la peau sèche et rugueuse, la bouche sèche, la gorge sèche, le pouls rapide, la pression artérielle faible, les fonctions rénales altérées, etc. Toutefois, si c'est une déshydratation grave, plus que la 5% de perte de poids, donc on va avoir la peau pâle, les lèvres et les doigts bleus, confusion, désorientation, etc. Donc ceci peut arriver dans des problématiques de diarrhée, de vomissement, de grosse chaleur ou quand on ne s'hydrate pas assez, d'où l'importance de pouvoir bien s'hydrater. Ceci conclut cette partie, donc ce module qui s'intéressait aux minéraux, aux vitamines et à l'eau. Ainsi, je complète la partie sur les nutriments. Donc, on a revu les macronutriments, les micronutriments. Et je vous invite à suivre la dernière partie de mon cours qui s'adresse aux recommandations alimentaires et particulièrement les recommandations alimentaires générales et non pas nécessairement spécifiques au diabète, qui va être abordé un peu en plus grand détail par la suite. Merci.